Bonsoir le public et les auditeurs, amis des livres et des apéros. Les adolescents seraient mous. Ils seraient incapables de s'investir dans une cause plus large que le diamètre de leur nombril. La preuve, seuls 2% des jeunes de moins de 30 ans sont engagés dans un parti politique, avance le Crédoc. Les ados seraient donc indifférents au monde, à l'élection de Trump, au score de François Fillon, au brushing de Karine Le Marchand. Ventousés à leur portable, ils auraient perdu les règles du face-à-face et ne concevraient le lien humain que sous forme de textos, de tweets ou de posts Facebook. Les ados seraient mous et tout seuls. Hein ? Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? S'écrit la littérature. Oh, mais j'en ai ras les comédons de ces clichés, mais qu'est-ce qu'elle est jeune, cette Dupont-Mono. Mais c'est même l'inverse. Les adolescents sont obsédés par le sexe. Pardon, Françoise Dolto, mais elle est là, leur révolution. Tristan et Iseut, quel âge ont-ils ? 14 ans. S'ils avaient eu Facebook, ils n'auraient pas liké, ils auraient lové. Et leur torride liaison est un séisme politique pour le royaume de Cornouailles. Et tant qu'on y est, quel âge a Juliette qui brûle pour Roméo ? 13 ans. Là aussi, le désir de culbute est politique. Quant à Vladimir, le héros de Premier Amour de Tourguenieff, il a 16 ans. Alors loin d'être mou, les adolescents affichent une sacrée vigueur. Et si on avait encore besoin d'un livre pour le confirmer, il est là, parmi les vers de Beaujolais, et on embrasse le CSA, c'est « L'innocent » de Christophe Donner, paru chez Grasset. Nous sommes en 1969, année érotique. Christophe est adolescent. La révolution de 68, la contestation des 70s, il barbote dedans, mais ce renouveau politique se mêle surtout à une urgence, perdre son pucelage. Il y avait l'éducation sentimentale de Flaubert, voici l'éducation sexuelle de Donner. D'autant que Christophe a des cheveux bouclés, eh oui, des yeux bleus et une petite bouche, faire tomber les filles et aussi les garçons est donc un jeu d'enfant. Cela dit, il a aussi une mère psychanalyste et un père communiste, personne n'est parfait. Et nous voilà embarqués dans l'épopée d'une décennie folle, sexuelle, triste aussi, à travers les yeux de ce Christophe qui dit tantôt « je », tantôt « il », mais qui toujours manie l'autodérision comme personne. Alors, le temps d'un apéro, nous partagerons un amuse-bouche avec Christophe Donner et nous aimerons ça. Débauchés que nous sommes, il nous donnera ses secrets d'écriture, comme on enlève ses vêtements, ce sera le procès-verbal, nous livrera ses vices culturels, ce sera les inavouables, avant qu'un libraire, gardien de la vertu, ne vienne apaiser ses ardeurs.
France Inter, l'amuse-bouche, Clara Dupont-Mono.
Bonsoir Christophe Donner.
Bonsoir.
Bon, vous êtes toujours là, c'est déjà une bonne chose. Oui. Alors, première question basique de journaliste, le Christophe du livre, est-ce que c'est vous ?
Oui, deux fois, de manière différente d'être moi.
Parce que vous dites « je », vous dites « il ».
Il, bah oui, parce que je parle de quelqu'un qui n'existe plus.
Qui était
moi,
vous, adolescent.
À 15 ans, j'existe plus, je regarde une photo, je me reconnais pas, et en même temps, je sais que c'est moi. Donc je parle de lui, il, qui était moi, et dans le même livre, de la même façon. Parce que je restitue quand même, j'ai une certaine mémoire qui s'en va forcément, mais... Les faits, comme je les ai entretenus quand même beaucoup en écrivant de livre en livre sur mon enfance, j'ai beaucoup fait ça quand même, parler de mon enfance. Donc finalement, je pense que les souvenirs se sont quand même cristallisés. Je suis pas loin des faits. Et en même temps, quand je me laisse aller sur les faits et que j'ai 60 ans et que je raconte et que je regarde ce que j'ai pu faire et cette photo notamment, ce que j'ai pu être à 15 ans, ça donne un autre discours sur cette époque-là et sur ma vie à 15 ans. Donc c'est pour ça que je mêle les deux. Je pense que ça, c'est pas inintéressant.
Non, c'est même réussi, parce qu'en plus c'est un casse-tête littéraire à faire, techniquement parlant, et c'est très réussi. Christophe, donc le personnage, découvre la masturbation. Ah ouais. Bon, alors il le fait partout, sur les stations-service, on croit qu'il est aux toilettes, en fait pas du tout. En Angleterre, il pousse le vice jusqu'à même le faire de la main gauche. Et je cite, ce qui est très drôle, bah, j'ai compris, bien là, logique, et je vous cite, j'en faisais le compte quotidien, hebdomadaire, calculant ce que ça pouvait donner sur l'année. Qu'est-ce que Christophe trouve dans cette frénésie ? Parce que ce n'est pas la recherche du score.
La mort. C'est-à-dire, c'est une proximité, le plaisir intense que j'ai découvert à ce moment-là, que tout le monde découvre, enfin tous les garçons et les filles d'une autre manière. C'est, je crois, une proximité avec la mort. Je pense que la première chose qui me soit venue à l'esprit à ce moment-là et dans les fois suivantes, c'est qu'il faudrait mourir à ce moment-là, tellement c'est bon, et ne plus rien avoir d'autre. Donc, c'est pas pour rien que ça s'appelle, enfin, la jouissance, on appelle ça la petite mort quand même. Bon. C'est voluptueux, quoi, de mourir comme ça. Et pour un garçon comme moi qui était assez angoissé et a pas mal de problèmes, la mort étant quelque chose d'assez bien vu, la politique aidant aussi, pouvant mener à la mort, la mort par acte sexuel, c'était bien.
Et du coup, ça voudrait dire que faire l'amour pour le personnage, c'est ça faire sa révolution, un petit peu.
Ah ben là, c'est anti-révolutionnaire complètement. Oui.
Non, nous, on a l'impression, quand on vous lit, que l'acte sexuel, c'est la vraie révolution, qu'au fond, elle n'a rien à voir avec des motifs idéologiques.
Oui, mais l'amour va le détourner de la révolution complètement, quoi. Quand il va rencontrer, c'est fini, il n'y a plus... c'est ça qu'il cherchait, en fait, évidemment. C'est à tirer son coup, à baiser, à rencontrer, à aimer, tout terme qu'on veut choisir. Mais, et la révolution, c'était la plainte de ne pas y arriver. C'était une forme de plainte. De réclame, de revendication. C'était ça qui était caché derrière les écrits de Mao Tse-tung.
Oui, du coup, contre le grand soir, il y a la grande nuit, finalement. La grande nuit voluptueuse. Alors, comme tout le monde, Christophe, il a une mère, un peu intrusive, on va dire que c'est un euphémisme. Et alors, la mère de Christophe me rappelle une autre mère, qui est celle d'un film qui s'appelle Les Beaux Gosses, de Riyad Satouf.
Tu sais quoi ? Tu te masturbais ? Tu pensais à quoi ?
À toi. Non, c'est bon, l'intimité, la pudeur, tu connais, là ?
Oh là là !
Tu m'emmerdes ! Tu m'emmerdes ! Tous les jours ! Tous les jours, tu me casses les couilles avec ta branlette ! Tu m'emmerdes ! Tu m'emmerdes ! Putain, on peut même plus se prendre tranquille dans cette maison !
Voilà, donc vous êtes bien sur France Inter, hein, je vous le rappelle, mais le personnage se révolte, Christophe Donner. Il s'insurge dans l'extrait des Beaux Gosses qu'on vient d'entendre. Mmh. Comment est-ce que le personnage de Christophe, lui, il fait pour échapper à l'emprise de sa mère ?
Il s'enfuit, il fugue, il s'échappe. Non, non, il n'est pas du tout... J'aurais bien aimé pouvoir parler à ma mère comme ça. Parce qu'il n'y avait pas de... Contrairement à ce qu'on peut penser dans une famille de psychanalystes, il n'y a pas de parole. Ça qui est extraordinaire, c'est que la parole était interdite parce qu'elle était supposée être évidente. Et enfin, je ne sais pas pourquoi, en fait, mais entre elle et moi, il n'y avait pas de parole.
Alors, votre mère, elle a même fondé un labo de psychanalyse dans son appartement. Mmh. Et on voit passer toute une époque. On voit la consultation de psy est à 5 francs et les gens se roulent des joints.
Des discussions sur la psychanalyse après les journées de psychanalyse. Ils étaient 4 ou 5 psychanalystes qui recevaient à la chaîne des patients pour 5 francs et dans un grand labo qui existe toujours. Enfin, le lieu existe toujours. Et il a été le siège du MLF à un moment, puis il est devenu le siège de Technic Art. Un jour, j'ai été à Technic Art et je me retrouve
chez maman.
C'était drôle. Et puis voilà. Et puis moi, j'étais amoureux de la maîtresse de l'ancien mec de ma mère.
Voilà. Tout est normal.
Donc voilà. Et j'essayais de la voir. Elle était magnifique. Je peux pas dire son nom, mais il est drôle son nom. Mais voilà. Alors, donc j'étais au travail, quoi.
Christophe, il a aussi un père. Ce père, oui. Il est communiste. Mmh. C'est peut-être Gérard Depardieu dans le film Uranus de Claude Berry qui en donne peut-être pas la meilleure définition, mais la plus cocasse.
C'est le bordel chez vous, hein. On peut faire n'importe quoi. Il suffit d'avoir sa carte du parti et vas-y que je te dénonce, que je t'expulse. Que je te menace ? Tout est permis, hein ? Allons, allons, allons ! Allez, coco !
Gérard Depardieu dans Uranus de Claude Berry, c'est une définition assez vitriolée du communisme. Implicitement, vous avez un peu la même concernant votre père.
Oui, et en même temps, Depardieu, mon père est pas loin d'un personnage à la Depardieu, comme ça, truculent, et hableur, racontant tout et n'importe quoi... omnipotent, quoi.
Et en même temps, vous écrivez, il avait maintenant un bon boulot dans un journal communiste qui faisait de lui un homme riche.
Et son père... Riche à l'époque, je voyais riche, c'est-à-dire qu'il c'était un cadre supérieur, oui.
Et puis votre père, il vous félicite quand vous avez un bon bulletin. Oui, et oui. Vous lui reprochez donc d'être un peu un faux révolutionnaire.
Et bien sûr, moi, j'avais 11 ans en 68, donc la première truc de rupture avec mon père, c'est que j'ai dit à mon père, j'avais 11 ans... Le Parti communiste a trahi la classe ouvrière. Je lui ai dit ça, c'était au cours du repas, du dîner, et il m'a privé de dessert, il m'a renvoyé dans ma chambre. Et donc c'était fini, pour moi la révolution était finie, j'avais compris qu'elle passerait pas par le Parti communiste en tous les cas.
Et vous en avez reparlé avec votre père depuis ?
Ah non, jamais, c'était fini. Non mais parce que mon enfance était basée sur la révolution, donc elle arrivait, les gens étaient dans la rue, il y avait des barricades, tout était fait pour montrer que c'était ça la révolution. On chantait les chansons, on lisait les livres, je connaissais par cœur les 10 jours qui ébranlèrent le monde, bon... C'était la reproduction de l'événement, elle était là. Et puis je vois le PC qui était censé diriger la classe ouvrière pour la mener au pouvoir, qui dit aux gens, à Renault, c'est Guy qui dit reprenez le travail, ça va pas du tout. Il y a quelque chose qui cloche, quoi. À 11 ans, on est capable de comprendre ça.
Alors il y en a un autre pour qui la révolution est finie, Christophe Donner. Et il y a un autre qui cherche son père, qu'il trouve pas, mais qu'il a quand même mis en chanson, c'est Stromae avec Papa Outhet.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Quoi, qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es?
Révolution, tracts et tracas, et surtout première coucherie. On n'est pas sérieux quand on a 14 ans, il fallait la faire. Mais L'Innocent, c'est d'abord le titre d'un film sorti en 1976.
Tu sei come tutti i mariti borghesi che affollano questo mondo, mio caro. Che giurano all'amante di non avere rapporti con la moglie e alla moglie giurano di non avere un amante. Sono meschinerie che rifiuto.
Voilà, je n'ai rien compris, mais c'est pour le plaisir des oreilles. Il y a des amuse-bouches des oreilles, parfois. C'est le dernier film de Visconti, Christophe Donner, sorti en 76. C'est son dernier film.
Oui. Ce qu'il n'a pas vraiment fait, enfin, qu'il a fait, il était très fatigué. Voilà.
Et pourquoi celui-là ?
Parce que Visconti, c'est quelqu'un d'important pour moi. Et dans le livre, il est important parce que c'est... j'étais en train de vivre une histoire avec un cinéaste et il m'a emmené voir Mort à Venise, qui est l'histoire d'un jeune homme dont un vieux, si on peut dire, professeur tombe amoureux et pourchasse à Venise, dans une Venise envahie par la peste. Bon, tout le monde se souvient du film. Et donc j'avais 15 ans quand j'ai vu ce film-là. Et ça m'a bouleversé parce que je me sentais à la place du jeune homme, parce que évidemment tout le monde, je ressemblais un peu, ou en tous les cas j'étais l'objet de convoitises similaires, et c'était très douloureux, je dois dire, de voir une histoire qui était presque la sienne, en compagnie de quelqu'un qui vivait aussi la même histoire.
C'est pour ça que vous avez décidé que vous ne serez pas acteur. C'est-à-dire que vous sortez de Mort à Venise et vous vous dites « je ne serai jamais acteur ».
Oui, il m'avait fait jouer dans son film, il m'avait promu au rang de vedette de son film, d'une certaine manière, d'égérie en tous les cas. Et en voyant cette cruauté du cinéma qui montre... j'ai dit « non, je ne veux pas faire ça, je veux me cacher ». Et donc je suis resté caché, j'ai continué de faire du cinéma, mais à l'endroit le plus caché du cinéma, c'est-à-dire dans les salles de montage, où on manipule les acteurs, on les coupe, on les fait parler d'une certaine manière, on les manipule, quoi, vraiment.
Alors ça ne vous a pas empêché, vous l'avez dit, de faire un peu de cinéma, et le film dont vous parliez, c'est peut-être un film qui s'appelle What a Flash, qui est sorti en 1972, Attention OVNI.
Comment ta gueule, bande de salauds? Vous avez le pouvoir depuis bientôt 10 heures. Il n'y en a pas un d'entre vous qui a fait quelque chose. Qu'est-ce que vous foutez là-dedans, nom de Dieu? Foutez le bordel dans cette baraque. Vous pensez qu'on va attendre la dernière heure pour faire exploser la capsule? Il faut que ça pète avant. Il faut avoir les gonzesses, il faut violer les mecs, il faut faire n'importe quoi. Attrapez les caméras, attrapez le chien, prenez-le par la portière et enlevez tous vos frocs. Déshabillez-vous là-dedans, nom de Dieu. Déchirez-vous, faites quelque chose. Viens ici, dépêche-toi. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Vous savez bien que vous devez crever dans quelques heures maintenant.
Voilà, alors c'était un film avec Bernadette Lafont, Maria Schneider, Tony Marshall, Jean-Pierre Coff qui fait la cuisine, Christophe Donner, qu'est-ce que c'était que cet objet ? Qu'est-ce que c'était que ce film ?
Eh ben, c'est Barjol qui avait enfermé une centaine de personnes, d'acteurs, techniciens, dans un studio, le plus grand studio de l'époque. Et pas le droit de sortir, et 5 caméras qui tournent en permanence, donc une espèce de loft bien avant l'heure. Et puis moi qui étais, j'avais même pas le droit d'être là parce que j'étais mineur, quand même, j'avais même pas 15 ans, et qui débarque là, et un rêve quoi, un rêve pour un... J'avais quitté le lycée, j'étais en train de faire du théâtre dans la rue et j'arrive...
Et vous dites j'ai pas d'autorisation parentale et vous en aurez pas, ma mère est en prison et mon père est au Parti communiste.
Voilà. Au producteur qui savait pas comment faire pour m'engager parce que Barjol était déjà amoureux de moi apparemment. Moi je savais pas et il voulait à tout prix que je sois dans ce film pour m'emmener dans sa loge après. Et donc il était pas question que je fasse pas ce film. Et le producteur était très embêté quand même parce qu'il savait aussi qu'il y avait des problèmes.
Mais quand même, Christophe Donner, quand on voit toute cette époque, avec aussi ses excès bien sûr, hein, mais toute cette rébellion qui agite la jeunesse. Écoutez du coup ce que disait Marcel Ruffaut sur les jeunes qui étaient descendus dans la rue à cause des retraites. C'était en 2010 sous le gouvernement Fillon. Écoutez ce qu'il dit.
Et c'est là où ils sont passionnants en disant dès qu'il y a contestation, nous on doit contester quoi. C'est-à-dire c'est pas la contestation pour le sujet et c'est la contestation pour la contestation. On voit toujours la possibilité de mobilisation des jeunes à la Gavroche.
Voilà, donc les jeunes se mobiliseraient parce qu'ils aiment la contestation, et beaucoup plus que pour l'objet même de la contestation. C'était pas ça, à l'époque?
Un peu, quand même. Ah. Bien sûr. Enfin bon, à 13, 14 ans, les manifs qu'on faisait, les grèves qu'on faisait au lycée. La seule chose qu'on attendait, c'est que les flics rentrent au lycée pour tout casser et pour pouvoir déclencher, bien sûr, c'était que ça.
Et ce vent de liberté qu'il y avait, que vous racontez dans votre livre « L'innocent », vous trouvez qu'aujourd'hui, il y a toujours le même ou il y a quand même un peu moins ?
Ça dépend, je sais pas, je les connais pas les jeunes. J'ai pas d'enfants, j'ai quelques filleuls comme ça, ils ressemblent pas du tout à ça.
Enfin, a priori, plus personne ne se met dans une pièce fermée en passant des jours et des jours ensemble avec pendant une centaine de personnes comme le film Le Voix de Flash.
Si, il y a le loft, il y a les trucs comme ça qui sont un peu organisés, mais non, je sais pas.
Vous avez raconté tout ça donc, dans ce livre, et c'est quelque chose que vous avez toujours fait, l'autofiction. Vous avez même écrit en 1998 un livre qui s'appelle « Contre l'imagination ».
Oui, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que dans ce film-là, qui a duré 72, 80, 80 heures, il y a quelque chose que j'ai appris, c'était les gens s'ennuyaient. Et il fallait quand même faire un film. Et donc, ils mettaient en scène des scènes primitives, un mariage, une scène de sexe, etc. Et moi, ce qui m'a fasciné, et après je l'ai vu au moment du montage, c'est comment la fiction prend forme dans une réalité très prosaïque, très emmerdante, comme ça. Et comment tout à coup, en montant les choses, forcément la fiction naît. Et ce qui est fascinant avec le cinéma, c'est comment on suit. Il n'y a pas de rupture comme ailleurs, comme dans la littérature. On suit image par image le déroulement et la naissance de la fiction, la naissance du désennui, la naissance de la joie, etc. Dans une même séquence et dans un plan séquence, parce que les caméras duraient à ce moment-là 10 minutes, c'était des coups-temps, donc on pouvait filmer pendant 10 minutes, elles se relayaient. Donc on voyait très bien la scène se créer. Et ça m'a marqué à jamais, plus que toute autre chose, dans ma façon d'écrire et d'avoir envie de fabriquer quelque chose, c'est de restituer ce moment, cette construction de la fiction, cette construction du bonheur d'une histoire qui se fait à partir du rien, du néant, de l'ennui. Et tout d'un coup, les gens bougent, les gens inventent, c'est plus fort qu'eux, ils créent quelque chose, une mythologie.
Vous aimez, je crois, Céline, il dit pas tout à fait comme vous. Écoutez ce qu'il dit à propos de l'écriture en 1958.
J'ai décidé d'écrire pour m'acheter un appartement, parce que je n'en avais pas, et que j'ai vécu à l'époque où la grosse difficulté était de payer son terme. Et alors je trouvais qu'en possédant un appartement sans bien propre, on n'avait plus de terme à payer. C'était bien agréable.
Voilà, l'esprit pragmatique du grand génie. Comme lui, Christophe Denner, vous n'avez pas commencé à écrire pour acheter un appartement ?
Non.
Non, bon voilà, vous avez l'esprit moins pragmatique. Alors, il est temps de nous révéler vos secrets d'écriture, Christophe Denner, et ça tombe très bien parce que c'est l'heure du procès-verbal. Votre nom ?
Faux. Ah,
d'accord, votre prénom ?
Vrai.
Vous écrivez assis, couché ou debout ?
Toujours assis. Oui.
Sur ordinateur ou sur papier ?
Les deux. J'ai des carnets d'abord sur lesquels j'écris la base, qui ne bouge pas, qui est sans rature aucune. Et puis après, je reprends et alors ça fait des textes que je peux envoyer à mon éditeur, parce que maintenant, les éditeurs ne veulent plus autre chose que des textes sur Word. Quoi. Donc...
Et vous écrivez chez vous ou au café ?
Non, pas au café, mais pas forcément chez moi, un peu partout.
Un peu partout. Donc quand vous levez la tête, vous voyez différentes choses ? Il n'y a pas une fenêtre ou un paysage précis que vous avez sous le nez chaque fois que vous levez le menton ?
Non, mais non, non, non. C'est des appartements divers, c'est des endroits qu'on me prête ou dans lesquels je me retrouve. Oui. Mais c'est toujours assis à une table. C'est rarement... ça pourrait être l'inconfort. Je crois que quand on a besoin, envie d'écrire, c'est n'importe où, quoi. Mais c'est vrai que...
Ah, ça dépend, il y en a qui ont besoin de leur petit confort, mais... Est-ce que vous avez un tic quand vous écrivez ? Est-ce que vous rongez les ongles ? Est-ce que vous fumez ? Vous buvez de la tisane, du vin rouge comme nous ?
Je bois, oui, je bois beaucoup
Vous êtes un peu alcoolique, donc ?
Non, du thé, des choses comme ça. Je suis très potomane.
Potomane. Voilà. En période d'écriture, votre sommeil est serein ou tourmenté ?
Mon sommeil est pratiquement inexistant dans les moments intenses d'écriture ou de création, même pour dire un gros mot. Quand je fais des films, je crois que je dors à peu près 3 heures par nuit, quoi, et c'est tout.
Et votre pause, alors PAUSE, elle ressemble à quoi
Je ne sais pas, ça dépend. Boire un café, manger, faire de la gymnastique,
pas boire un thé,
regarder
parce que
les courses. Regarder les courses.
Ah oui, vous êtes un passionné de chevaux.
Ouais. Ça m'occupe beaucoup de temps.
Vous relisez vos livres ?
Non.
Vous avez peur d'être déçu ?
Épouvanté, pas déçu, épouvanté.
Merci Christophe Denner, vous êtes libre. Je rappelle que vous écoutez et regardez, car nous sommes en public, l'Amuse-Bouche sur France Inter. Notre invité donc c'est Christophe Denner pour son roman L'Innocent. Et j'en connais qui le sont depuis longtemps, innocents, blocs de pureté dans un monde d'Amazon. Merci, j'ai nommé les libraires, mais que ce seum, mais en voilà un à notre table. Mais ne seriez-vous pas Georges-Marc Habib de la librairie L'Atelier, le 20e arrondissement?
Bonsoir Clara.
Bonsoir Georges-Marc.
Bonsoir M. Donner. Bonsoir.
Vous êtes aussi directeur de la revue Page des libraires qui nous fournit, voilà il l'a apporté.
J'ai amené le dernier numéro.
Qui nous fournit de la matière fraîche de libraire chaque semaine. Vous aviez envie d'un apéro Georges-Marc?
Bah moi je suis venu pour ça.
Je comprends, en même temps je comprends.
Ah, vous nous invitez, on vient.
Je comprends. Et alors dans la foulée, puisque vous êtes là, quelle est la question la plus farfelue qu'on vous a posé dans votre boutique, ou alors une anecdote un petit peu farfelue qui vous est arrivée?
Puisqu'on est sur le thème de l'adolescence, moi j'ai envie de parler d'une aventure qui m'est arrivée avec des adolescents à la librairie. J'ai devant la librairie un étalage de livres, normal, de format de poche, des petits livres à 2 euros. En fin de journée, comme ça, je vois deux jeunes filles s'approcher de l'étalage, continuer à discuter, et il y en a une qui regardait les livres, les quatrièmes de couverture, et elle commençait à se faire une petite pile de livres. Moi je regarde intrigué, et au bout d'un moment, elle prend sa petite pile de livres, ouvre son sac, les met dans son sac et s'en va avec sa copine tout en continuant à discuter.
Habile voleuse.
Ah bah sourdi, je sors et je dis, mademoiselle, les livres sont payants. Ah bon ? Me dit-elle. Je dis, bah oui. Elle dit, mais pourquoi vous les mettez dehors ? Mais pour justement inciter les gens à rentrer, non pas à partir avec. Et là, elle m'a traité de tous les noms. Elle m'a traité de raciste, d'intransigeant, de quelqu'un de complètement farfelu. Et vraiment, j'étais à côté de la plaque. Et oui, les adolescents sont comme ça, ils vous piquent des bouquins, mais c'est vous qui vous faites engueuler.
Libraire, un métier dangereux. Et quel est le livre que vous conseilleriez à Christophe Donner, Georges-Marc?
Pour rester dans le ton, puisqu'on parle d'adolescence, moi, j'ai découvert un bouquin sur la rentrée qui s'appelle « Les cosmonautes ne font que passer », premier roman de Elitsa Georgieva aux éditions Verticales.
Avec l'accent.
Avec l'accent. C'est un premier roman écrit en français d'une jeune femme. Je ne sais pas trop quel âge elle a, mais elle est née en 82, donc ça fait 35 ans, hein, ou 34 ans. Ça se passe en Bulgarie. On est dans les années 80. Le communisme est encore là. Et il y a sa jeune héroïne qui va nous parler de ce qu'elle vit avec son papa, sa maman, son grand-père communiste, lui un vrai parce que il s'est engagé, et tout ce qu'elle va découvrir en tant que jeune fille préadolescente, etc. Et évidemment, elle va nous raconter ses amours, son désir de copinage, ce qu'elle va rencontrer et son rêve absolu qui est de devenir Yuri Gagarine.
Ah bah oui. Forcément.
Arrive la chute du mur de Berlin, évidemment tout change, et là elle change un peu d'objectif, et son prochain objectif c'est de devenir Kurt Cobain.
Elle a raison, il faut de l'ambition.
Il faut de l'ambition.
Vous nous redonnez le titre, Georges-Marc?
Oui, Les cosmonautes ne font que passer, c'est un texte magnifique, vraiment Christophe, je pense qu'il devrait vous plaire.
Merci Georges-Marc Habib de la librairie L'Atelier à Paris 20e, merci donc au magazine Page. Restez avec nous, hein, un apéro c'est comme le savoir, ça se partage. Surtout qu'en plus on passe aux inavouables, aux cachets. Christophe Donner, on a beau être un jouvenceau épris de sexualité heureuse, on n'en est pas moins faillible. J'espère que je ne vous l'apprends pas. Alors y a-t-il un livre ou un auteur ou un classique qui vous tombe des mains?
Je suis assez anti-shakespearien. Assez anti-Shakespeare. À chaque fois que je vais voir une pièce de Shakespeare, je m'ennuie et je me révolte contre cet enthousiasme général sur Shakespeare qui est beaucoup moins bien que Racine, Corneille et tout ça.
Oh, vous y allez un peu fort. Quand vous écoutez ça...
To be or not to be, that is the question.
Être ou ne pas être, c'est là la question.
Ce monsieur a cessé de fumer depuis. Hein. J'espère que je ne vous l'apprends pas. Mais quand on regarde Roméo et Juliette, Christophe Denner, au fond, c'est quand même l'histoire de deux ados un peu travaillés par la chose et qui foutent en l'air une famille. C'est un peu l'innocent aussi.
Oui, mais enfin, c'est un mythe qu'il n'a pas inventé. Et, Et je dois dire que ce qu'il a inventé, la fin, est totalement loufoque. Roméo et Juliette dans West Side Story, c'est parfait, ça tient debout, c'est cohérent, les personnages tiennent, bien que ça soit une comédie musicale, mais je veux dire, c'est pas, il n'est pas l'auteur de c'est pas lui qui a fabriqué cette histoire, quoi.
Non, mais j'arriverai pas à vous convertir, ça vous parle pas.
Sérieux,
ça
quoi.
Vous parle pas.
Georges Marcavi. Quand vous voyez tous les trucs grandiloquents où tout le monde se trucide, on n'y croit pas une seconde. Et soit on n'arrive pas à comprendre, soit on n'y croit pas.
Georges Marcavi, c'est pareil pour vous, Shakespeare.
Moi, Shakespeare, on parle. Là, moi, je préfère la littérature contemporaine. Je préfère lire du Christophe Donner que du Shakespeare.
Merci.
J'ai bien fait de le faire venir. Il est l'heure de ranger les amuse-bouches et de passer à table. Cessez de forniquer et venez dîner. La meilleure gourmandise reste la littérature. D'ailleurs, L'innocent de Christophe Donner est paru chez Grasset. La semaine prochaine, nous recevrons Françoise Chandernagor pour son anthologie de poésie Quand les femmes parlent d'amour, paru au Cherche-Midi. L'amuse-bouche doit sa vigueur à Marie-Annick Rimbaud, Claire-Sophie Collet, Thierry Dupin, Christophe Michou et Jean-André Giannichini. Ce ne sera pas sexuel, mais politique. Et non, ce n'est pas toujours la même chose. Avec Expression Directe, tout de suite après nous, succédera d'ici, d'ailleurs, de Zoé Varier après 20h. Bonne semaine. N'oubliez pas de lire et de faire l'amour. Pas les deux en même temps. Évitez. Je vous embrasse. À samedi.